Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui de rencontrer le photographe sédunois Robert Hofer, qui se définit lui-même comme un photographe touche-à-tout. En effet, il a produit des clichés pour la publicité, pour la presse, pour des expositions ou pour des livres. Il apprécie toutefois particulièrement le portrait. Il a par exemple photographié 117 artistes valaisans, clichés que l'on peut voir dans un livre intitulé Vis-à-vis. Dans cette interview réalisée fin 2023, il nous raconte dans quelles conditions il a bien failli ne pas trouver de place d'apprentissage. Il nous narre également une photo assez incroyable qu'il a faite du chancelier allemand de l'époque, Helmut Kohl, qui était alors en visite officielle dans notre canton. Il nous parle aussi de plein d'autres aspects de sa profession. À toutes et à tous, je vous souhaite une agréable et douce écoute.
Robert Hofer, bonjour.
Bien, bien bonjour.
Comment est née chez vous la passion de la photo? Est-ce que c'était par exemple un ami, quelqu'un de la famille qui vous a prêté un appareil?
Le début en fait de ma carrière de photographe, elle a commencé relativement tôt. J'avais 15 ans, comme j'étais au collège, en collège scientifique. J'avais toujours l'impression que les études étaient un peu abstraites et j'avais besoin de quelque chose de très concret. Et en fait, la photographie était à l'époque au RLC de Sion, c'est-à-dire le club de rencontres, loisirs et culture de Sion. Il y avait un laboratoire de photographie, je me suis intéressé à ça. Et puis, ça a été vraiment un coup de foudre parce qu'il y avait une sorte d'immédiateté absolue de l'image photographique, c'est-à-dire à 2 h de l'après-midi, on partait faire des images, à 3 h, on rentrait au laboratoire, à 4 h, on tirait une photo et à 5 h, on pouvait la montrer. C'est-à-dire, sur moins d'une demi-journée, on avait une transformation du concret en quelque chose de concret. C'était nettement plus, j'allais dire, sympathique pour moi qui ne savais pas très bien où naviguer vers le monde de l'intellect qui était le collège.
Après avoir obtenu votre matu, vous avez effectué un apprentissage de photographe auprès d'Oswald Roupen, immense photographe valaisan du siècle passé, grand témoin de la vie de notre canton. Est-ce que vous avez un souvenir particulier de votre première rencontre avec Oswald Roupen?
Oui, ça a été, j'allais dire, peut-être presque un coup de foudre mutuel parce que j'avais été le voir parce que je cherchais une place d'apprentissage et il venait d'engager quelqu'un 2 semaines avant. Et je me suis dit, ah, c'est désespérant, je crois que mon destin est scellé, je ne deviendrai pas photographe. Mais j'ai quand même insisté, j'ai fait le tour de la Suisse, depuis le Liechtenstein à Bâle, en passant par Genève et Zurich, pour trouver une place d'apprentissage que je n'ai pas trouvée. Et au retour, après pratiquement 2 semaines d'errance, il y a son nouvel apprenti à l'époque qui venait de commencer et qui s'est désespéré, qui a dit, mais c'est pas du tout ma voie, je vais me lancer dans l'informatique. C'était donc en 1978, c'est-à-dire très tôt dans l'histoire de l'informatique. Il avait déjà compris qu'on allait vers une révolution et il a abandonné du jour au lendemain. Et c'est ce petit miracle qui m'a permis de retrouver Oswald Roupen sur mon chemin.
Et puis, cette première rencontre, comment vous l'avez trouvée? Comment ça se passait?
C'est toujours difficile de raconter, j'allais dire, un coup de foutre, parce que on pouvait parler en français avec lui, mais surtout aussi en haut-valaisan, parce que ma langue maternelle, c'était le haut-valaisan, que j'ai pratiquement oublié aujourd'hui, mais ça a fait un lien. On était tous les deux amoureux de littérature. Lui, à quelque part, un littéraire raté, moi, d'une certaine manière aussi. En fait, j'étais plus porté sur la littérature que sur les sciences. Et en fait, voilà, ça se fait rapidement, ces choses, hein. En 15 secondes, il y a des atomes crochus qui se lient ou bien pas. Et ça a été le cas pour Oswald Roupen et moi.
En deux mots, c'était surtout du travail pour les journaux ou...
Alors à cette époque-là, il y avait encore le 13 étoiles, qui était un peu sur sa phase descendante, mais c'était un magazine mensuel qui donnait une place prépondérante à la photographie. On pouvait raconter des histoires, c'est-à-dire le terme de photojournalisme avait un vrai sens. Il n'y avait pas que photo, il y avait journalisme. C'est-à-dire, on racontait autre chose avec l'image que ce qu'on pouvait raconter avec le texte. Et ça a été un moment de bonheur absolu.
Donc, comme le nom l'indique, c'était des photos du Valais, bien sûr.
Ah, exactement, puisque le 13 étoiles, c'était les 13 étoiles du drapeau valaisan, c'était que la vie quotidienne du Valais depuis l'industrie en passant par la viticulture, etc.
Et comment est-ce qu'il vous a transmis ses connaissances? Comment ça s'est passé l'apprentissage en général pour vous?
Alors c'est toujours étrange parce qu'on a toujours envie de ressembler à celui qui est un peu son maître. Et en fait, moi, dès la première minute, je me suis dit, il faut que je me distancie, parce que je n'arriverai jamais à ce niveau. Je n'arriverai jamais à la cheville de ce reporter magnifique qu'il était, hein, qui était vraiment, qui a fait, j'allais dire, dans l'histoire du XXe siècle valaisan, une vraie révolution visuelle. Un intellectuel qui voit le Valais changer à un moment stratégique. Donc, je me suis dit, si je vais sur le même territoire que lui, alors évidemment, je pouvais le copier, c'est ce que j'ai fait pendant tout mon apprentissage. J'ai fait comme, hein, avec comme Sol Rupen. J'ai utilisé deux objectifs comme lui-même, un 24 mm qui est un grand angle qui idéalise un peu la réalité, un petit 85 mm qui est en fait un petit téléobjectif qui permet d'isoler des sujets. Donc, la méthode, je l'avais compris en un jour. Et ensuite, on fait comme son maître, mais mon monde photographique, il était ailleurs, il était dans la mise en scène, il était dans les choses que je pouvais recréer dans le portrait, etc. Donc, l'exact opposé de mon maître, entre guillemets.
Par la suite, comment s'est structuré, comment a évolué votre carrière ?
Alors, ça a été une période relativement difficile, puisque moi, j'ai fait un apprentissage. J'ai commencé mon apprentissage à 22 ans, c'est-à-dire c'est vraiment une deuxième carrière. À 22 ans, on a déjà un background derrière soi. D'ailleurs, les cours professionnels, aux cours professionnels que je suivais, c'est-à-dire tous les cours étaient à Vevey et ça regroupait tous les cantons romands, donc on était moins d'une dizaine. Hein. On était deux Valaisans, il y avait un Genevois, il y avait un Fribourgeois, un Neuchâtelois, etc. Et ces gens avaient déjà à peu près mon âge, c'est-à-dire il y en a un qui était boucher, il y en a un qui avait fait une autre carrière bien avant ses 20 ans et qui a recommencé. C'était une sorte de vocation tardive. Un peu tous ces gens qui ont fait l'apprentissage en même temps que moi, c'était une vocation tardive. Et donc, pendant 4 ans, on a suivi des cours professionnels, donc 78-82. En 83, j'étais engagé pendant un an comme assistant à l'école de photographie. En 83, je suis rentré pour devenir indépendant. Et aujourd'hui, je peux dire que je n'aurais pas pu être un photographe indépendant si je n'avais pas eu ma compagne, qui est toujours ma compagne aujourd'hui, c'est-à-dire 45 ans après, et elle m'a fait vivre pendant pratiquement 7 ans. 4 ans d'apprentissage, plus les 3 premières années où j'avais peu de boulot, mais c'est-à-dire que sur ce laps de temps, c'est énorme. Je n'aurais pas pu faire ce travail sans elle. Voilà, donc hommage appuyé.
Gros coup de chapeau.
Un gros coup de chapeau, largement.
Et question connexe, quelles sont les principales catégories de photos que vous avez faites ?
Ce qu'il faut préciser dans mon métier, en tout cas en Valais, on habite en province. Donc, on ne peut pas être un spécialiste d'un domaine particulier. On doit être un généraliste. Et moi, je me suis toujours défini pendant toute ma vie de photographe, puisque maintenant je suis retraité, comme un photographe généraliste, comme un médecin généraliste. C'est-à-dire, je touchais à tout. Je faisais de la publicité, de la communication institutionnelle, du journalisme, de la presse, de l'architecture, de la publicité pour des viticulteurs. J'ai fait des photos, j'allais dire, pour moi, entre guillemets, artistiques, des recherches esthétiques, etc. Donc, j'ai touché à tous les domaines. J'ai un peu une sorte de comment est-ce qu'il faut dire, de touche à tout de la photographie. Alors, évidemment, avec des frustrations, puisque quand on touche un peu à tout, on n'est pas forcément bon partout. Mais j'étais plutôt perfectionniste et dans chaque domaine, j'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même.
Et cette diversité, elle vous a quand même plu, vous a apporté ?
Ah oui, totalement. Alors cette diversité est magnifique. Alors évidemment, quand j'en parlais avec des amis photographes qui étaient spécialisés dans un domaine, eux étaient jaloux de cette compétence relativement large et moi j'étais jaloux de leur compétence particulière. Vous voyez, l'herbe est toujours plus verte chez son voisin.
Robert Hoffer, parmi toutes les photos que vous avez faites, est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a touché, ému ?
C'est difficile de répondre à cette question. Aimer une de ses propres photographies, c'est toujours un peu prétentieux. Alors je dirais, j'aime la photographie que je vais faire demain. Mais je pourrais citer une photo par année. Je pourrais citer une photo par décennie. Je peux citer la première photo que j'ai faite il y a 50 ans. Aujourd'hui, on est en 2023. J'ai fait ma première photo en 1973, en été 73. J'étais au collège, je photographie mon meilleur ami, Bernard, qui est encore mon meilleur ami aujourd'hui. Et j'ai une photo de lui à Saint-Luc, que moi, j'estime une belle photo. Mais si je vous la montre à vous, vous trouverez cette image banale. Donc, il n'y a pas, je veux dire, de beauté universelle. Évidemment, 10 ans plus tard, je fais une image qui tient la route, ou récemment quand je photographie avec mon drone un site industriel à l'abandon, je fais une image que personne n'a fait à part Google Earth, mais peut-être un autre, hein, une autre saison, etc. Mais puisqu'il y a des travaux, 2 semaines après, cette photo n'existe plus. Donc cette image-là, je l'aime maintenant, pendant 2 semaines, pendant 1 mois, et puis j'attends la prochaine.
Et parmi les gens que vous avez, dont vous avez fait le portrait, est-ce que il y a un souvenir plus particulier qui vous vient en tête, un souvenir lumineux d'une rencontre que vous avez faite à cette occasion?
Alors, en photographie, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a des relations relativement rapides. Quand on travaillait pour la presse, par exemple, on voit des gens pendant un quart d'heure. Donc, pendant ce quart d'heure, l'autre personne est toujours un peu réticente parce que se faire photographier, c'est une chose compliquée. Se montrer soi-même, c'est compliqué. Donc, il n'y a jamais d'amour au premier regard. En photographie, en tout cas de portrait, ça n'existe pas. Et je pense qu'il faut faire un autre métier si on ne peut pas recevoir, justement, pratiquement en pleine figure, chaque fois qu'on photographie quelqu'un, la personne ne s'aime pas en photographie. Donc en photographie publicitaire, en photographie politique, en photographie personnelle, c'est toujours terrible. Donc moi, après 2 semaines, j'aurais déposé les plaques. Si j'avais entendu ce qu'on m'avait dit, pour dire « mais c'est affreux », c'est pas la photo qui est affreuse, c'est peut-être moi qui suis affreux. Mais tout ça pour vous dire que il n'y a pas une personne en particulier où il y a une amitié qui est née après un portrait photographique. C'est des gens que j'ai rencontrés ou dans mon métier, un ami photographe à Genève par exemple, oui, que j'apprécie encore fort aujourd'hui. Voilà, c'est quand même mais la photographie permet une rencontre multiple extraordinaire qui fait que on est une sorte de grands réceptacles de toutes les diversités de la société. Alors ça, c'est un aspect très, très positif.
Et puis, est-ce qu'il y a une photo qui a été publiée, qui a choqué, qui a dérangé, par exemple, le lectorat d'un journal? Et puis, question qui va peut-être avec, est-ce qu'il y en a une qui a été censurée, entre guillemets, par un média parce qu'elle risquait de choquer?
Alors ça, c'est une question relativement simple à répondre. Une photographie qui a choqué en 40 ans de métier, jamais. Parce que je n'ai rien photographié de choquant, simplement. Il est arrivé une seule fois dans toute ma carrière où une photographie a été détournée de la légende originale que j'avais mise. Il y avait une fois, je crois que c'était dans le Nouveau Quotidien, il y a fort longtemps, une photographie en première page qui dénonçait en fait les problèmes de l'alcoolisme au féminin. Et il y avait une de mes photos qui était une photo d'une œnologue qui fait une dégustation, mais qui est en contre-jour. Alors j'avais envoyé cette image comme une image généraliste autour de la viticulture, avec une légende au dos imprimée. Hein. C'était écrit « œnologue tel et tel » en dégustation, dans un atelier, voilà, etc. Et l'image a été détournée. Donc le commanditaire, qui était un viticulteur, n'était pas content, puisque cette image a été détournée de son but initial. Et la dame qui est dessus non plus, même si elle ne se reconnaît pas. Mais je comprends le journal qui a cherché une image le plus neutre possible, donc en contre-jour, on reconnaît déjà moins les gens, etc. Mais ils ont complètement, j'allais dire, saboté ma propre légende. Et donc ça aurait pu être problématique pour la personne photographiée, pour le commanditaire qui m'avait demandé un reportage autour de son atelier d'œnologie. Mais moi, j'y pouvais rien. Mais c'est retombé sur moi, évidemment.
Vous avez quand même réagi auprès du journal.
Ah, j'ai réagi, ah oui, auprès du journal, etc. Mais ils n'ont jamais fait de démenti ou quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas gravissime. Je n'ai pas photographié un homme ou une femme morte. Je veux dire, ouais, ça, ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même une proportionnalité autour des choses. Donc, voilà.
Et parmi les photos que vous avez faites cette dernière année, celle qui vous laisse le plus grand souvenir, le plus beau souvenir ou le souvenir le plus fort?
Pas cette année, mais je me souviens d'une image du chancelier Helmut Kohl en 1986. Il vient en visite officielle en Valais.
C'était en 1989, d'après ce que j'ai vu.
Ah, 89, c'est possible, oui, tout à fait, oui. Oui, ça a été publié, je crois, le 16 avril 1989, en Uld de Bild am Sonntag, un journal allemand. Alors, je vous raconte quand même l'anecdote, puisque j'étais envoyé par la Suisse pour photographier la visite officielle du chancelier Kohl en Suisse.
Mais donc vous étiez envoyé par le quotidien
journal,
La Suisse.
Hein. Le quotidien La Suisse, oui, pardon, qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. Mais voilà, donc on était 30, 40 photographes, journalistes sur place Et il venait à Rarogne sur la tombe de Rilke, parce que Rilke est un grand poète, et Kohl est un admirateur de l'œuvre de Rilke. Donc, dans sa visite officielle, il a intégré ce voyage sur la tombe de Rilke. Et évidemment, tout le monde attend l'image emblématique de M. Kohl devant la tombe de Rilke en train de lui rendre hommage. Et moi, je me suis dit, ah, mais je vais attendre l'autre côté de l'église, parce qu'il va certainement monter par le petit chemin qui vient depuis le centre. Et donc, il faut connaître le lieu déjà. Donc, c'est déjà un avantage d'être valaisan. Et puis, j'ai vu monter une sorte de véhicule militaire, Pinzgauer, et il avait neigé la veille. Il sort du Pinzgauer avec son garde du corps et il s'étale de tout son long. Il mesure 1,93 m, hein, ce monsieur. Et je suis pratiquement le seul à être là. Et je fais une photo, c'est instantané, ça a duré une fraction de seconde. L'aide, justement, le garde du corps l'a aidé à se relever, etc. Et mon image, je l'aime bien parce qu'elle est en même temps pas dramatique. Il tombe, il se fait pas mal, il se relève. À l'arrière-plan, il y a un groupe de fifres et tambours qui sourit. Donc, sur cette image, il y a un peu tout. Il y a un peu toute ma signature photographique aussi. J'aime bien l'humour un peu au deuxième degré. Et là, elle était vraiment au premier degré, je dirais. Et cette image, moi, je ne savais pas que j'avais une image... C'est une image invendable pour la Suisse, c'est pas forcément intéressant pour la Suisse, je voulais dire pour les magazines suisses. Par contre, quelqu'un m'a suggéré, il a dit, mais les Allemands vont certainement être intéressés. Et en plus, il était question à cette époque-là, en avril 89, qui serait peut-être en danger pour la suite de sa carrière. Donc ça tombait bien, si j'ose cet aphorisme, que cette image... soit une sorte d'illustration de ce qui pourrait peut-être arriver au chancelier Kohl. Et voilà cette image qui n'est vraiment pas dramatique, mais qui a été un de mes seuls scoops de ma vie et qui m'a rapporté un mois de salaire pour la vente d'une seule photo. J'ai compris ce que signifiait avoir une photo exclusive ce jour-là.
En général, quand vous vendez une photo à la presse écrite, est-ce que vous en gardez les droits d'auteur? Est-ce que des années plus tard, vous gardez les droits sur ces photos ou pas?
Alors, ça dépend du contrat qu'on a. Moi, j'avais un contrat d'indépendant, donc tous les droits d'auteur m'appartiennent. C'est-à-dire, ces journaux n'ont le droit d'utilisation, ils n'ont pas de droit d'auteur. L'auteur, c'est Robert Hoffer. Et le droit court 70 ans après ma mort. C'est-à-dire, même si l'ensemble de mes fonds maintenant est déposé à la médiathèque Vallée, les droits continuent de courir. L'utilisation est possible par la médiathèque pour ses propres usages, mais en dehors de ça, tout doit être discuté avec l'auteur. Par contre, il y a, je pense, des photographes qui ont un contrat d'exclusivité, j'imagine, avec le Nouvelliste, et ils n'ont pas forcément les droits exclusifs pour leur propre négatif. Ça, je ne suis pas assez au courant.
Est-ce qu'il vous est arrivé de constater qu'un journal avait publié votre photo sans vous rémunérer?
Oui, ça arrive relativement... pas fréquemment, mais ça arrivait, oui. On avait l'impression qu'une photographie, c'était une sorte de grand do-it-yourself, on pouvait se servir sans s'adresser au photographe. Mais bon, ça ne se perd pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on peut prendre sur Internet, sur certains sites, des photographies gratuites sans rémunérer qui que ce soit. Donc, on donne l'impression que tout est gratuit. Hein, donc, il faut quand même garder en mémoire que c'est un vrai métier, que ce soit le journalisme, la photographie, et que je ne sais pas ce que l'avenir nous réservera, mais la presse écrite est parfois en danger quoi, aujourd'hui.
Évidemment, vous avez toujours pu réclamer votre dû quand c'était...
Oui, mais on devient un peu l'enquiquineur, hein, celui qui se dit « Ah, mais encore lui, il nous demande des... »
Ça paraît évident. Il faut être rémunéré pour un travail.
Si on fait une citation d'un journaliste sur quatre lignes, on doit s'adresser à lui pour lui demander si on peut le faire. Ça me paraît juste la moindre des choses.
On va aborder maintenant un chapitre qu'on pourrait intituler « Le droit et la photographie ». Est-ce qu'on a le droit de photographier des gens dans l'espace public et de les publier ensuite? Est-ce que quelqu'un pourrait vous reprocher de vous dire « Mais dans le fond, moi, vous ne m'avez pas donné... » Vous ne m'avez pas demandé mon accord.
Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Je sais que la loi suisse est assez claire à ce niveau-là. Dès que c'est un espace public et que c'est une foule, il n'y a pas de problème. Si c'est une personne individuelle au premier plan, et puis qu'on va la retrouver en première page du Paris Match, je pense que là, on aura des soucis. Mais moi, ça ne m'empêche pas de photographier au quotidien des gens dans la rue. les images ne seront peut-être pas utilisées, elles seront peut-être utilisées jamais, ou dans 50 ans, ou dans 70 ans, quand tous ces gens seront morts, et l'auteur qui vous parle aujourd'hui aussi. Mais pour moi, il y aurait une sorte de manque de ne pas pouvoir photographier des gens librement comme ça à l'extérieur. Ça raconte la vie de Sion, ça raconte la vie d'un moment, ça raconte la vie de 2023, si on doit demander l'autorisation à tous les gens qu'on photographie. Mais il est vrai que moi, j'ai vu la différence. J'ai photographié dans les années 80, j'allais, je sais pas, dans une cour d'école, photographier des enfants parce que sans arrière-pensée. Mais aujourd'hui, c'est juste impensable. On fait ça pendant 15 secondes, si on n'est pas autorisé par l'école. Même à Sion, je me souviens d'avoir photographié pour la ville de Sion il y a déjà quelques années, un cours de rythmique ou je ne sais pas quoi. Mes photos étaient bonnes, mais il aurait fallu demander l'autorisation aux 15 parents dont les 15 enfants étaient représentés sur ma photo. Donc, j'ai une photo de dos des enfants avec la maîtresse qui est devant un piano et une photographie banale qui ne dit rien, mais il y a l'autre qui est meilleure. Donc, elle existe toujours, mais ça devient compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, ça ne m'empêche pas de photographier. Voilà.
Donc, il n'y a jamais personne qui a réclamé, qui a dit « Ah, mais vous,
alors, cette photo... » c'est arrivé, je me souviens, sur les hauts de mon voisin, il y avait une œuvre d'art qui était installée d'un monsieur... comment il s'appelle maintenant? Ah là là, j'ai un blanc, je suis désolé. J'ai photographié une œuvre d'art. Et puis, à l'arrière-plan, il y a une maman et son enfant qui jouent. Et puis, ça donne une sorte d'échelle. Une œuvre d'art très grande, tout en cercle, au sol. Et puis, la maman me voit photographier. Elle se rue vers moi pour me dire qu'il faut effacer ces images. Puis, j'ai dit, mais est-ce que... Je lui montre l'image, fait au 24 mm. On ne reconnaît personne. Mais, par principe... Elle s'est sentie agressée, et voilà, donc ça arrive rarement quand même. Oui. Et puis on n'a pas envie de se coltiner un gars d'un mètre 90 non plus, sans une bonne raison.
Robert Offert, il y a une vingtaine d'années, un livre intitulé « Vis-à-vis » a été publié. On y découvre 117 photoportraits d'artistes valaisans. Tous ces portraits ont été réalisés par vous-même. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ?
Oui, volontiers. C'est un projet que j'avais déjà dans la tête depuis quelques années, mais entre 1999 et 2000, je me suis dit, il est temps de concrétiser ceci. Et je voulais concrétiser ce projet de photographier des artistes valaisans dans un livre. Ben, après déjà 20 ans de carrière, je me suis dit, depuis mes premiers pas au collège, avec les fameux cours d'histoire de l'art avec Jean-Daniel Coudray, ça a été une sorte de révélateur pour moi, au niveau de l'art. J'avais déjà ça un peu en prémisse, mais grâce à ça, j'étais beaucoup plus sensible. Et j'ai eu des contacts avec des artistes depuis cette période-là. J'ai fait beaucoup de reproductions d'art pour des amis artistes, j'ai fait beaucoup de reproductions d'art pour des magazines ou pour des livres. Et 20 ans après, je me suis dit, ah, comment faire pour renvoyer l'ascenseur ? Et je me suis dit, ah tiens, je vais consacrer l'année 1999 et l'année 2000 à raison d'un jour par semaine, photographier une personne pendant 2 ans. C'est-à-dire... 52 semaines par année, fois 2, ça fait 104, ça fait 104 portraits. Et j'ai commencé, je me souviens, ça devait être 1er janvier 1999, hein, les fameuses résolutions de la nouvelle année. J'ai fait une liste et j'avais 250 noms sur ma liste. Deux d'artistes valaisans uniquement, hein, je n'ai pas sorti de là. Et bien sûr, je ne connais pas tous les arts. Et je me suis dit, mais comment je vais faire ? Et je me suis dit, comme ce n'est pas une commande de qui que ce soit, que c'est une volonté personnelle de faire ce livre, ben, je n'ai de compte à rendre à personne. Alors, je photographie évidemment des amis proches. Est-ce qu'ils ont la légitimité d'apparaître dans ce livre ou bien pas ? Ça m'est égal, c'est moi qui décide. Donc, j'ai une sorte de surreprésentation de gens qui proviennent des beaux-arts ou des arts plastiques, etc. Mais je me suis dit, il faut quand même que ce soit relativement équilibré. Donc, je photographie des écrivains, je photographie des architectes, je photographie des metteurs en scène, des musiciens, des compositeurs, etc. Des danseurs, tous les arts doivent être représentés. Donc, je vais aussi à la recherche. Je ne connaissais pas forcément bien les artistes musiciens au Valaisan, alors je demande à des amis que je connais dans le Valais, à une journaliste, etc. Et dès que j'entends 3 fois le même nom, et je leur dis, mais est-ce que c'est quelqu'un d'important dans le milieu du théâtre ? Et il me répond, oui, assurément, je la rajoute sur ma liste. Voilà. Et ça a été un miracle absolu pendant 2 ans. Je me suis dit, à quel moment quelqu'un va me dire non ? Et c'est jamais arrivé. C'est-à-dire, je me souviens encore de l'anecdote avec Maurice Chapin. Il n'a pas compris tout de suite que c'était pour un livre. Il était tellement sollicité à cette époque-là que je pense qu'il a mis ça sur le, de côté. Je lui ai téléphoné, je pense, deux fois. Et la troisième fois, je lui ai dit, écoutez, là, ça commence à devenir un peu urgent. Il faudra que j'aie une réponse définitive parce que le livre va sortir en 2001. Et quand il a entendu le livre va sortir en 2001, il s'est dit, ah, c'est quand même quelque chose, j'allais dire, que lui a estimé important à un moment donné. Et il a dit oui. Alors, vous voyez ce que je veux dire? C'est absolument faux. Et j'ai toujours essayé de photographier chacune de ces personnes avec un indice de son art. Et ça, c'est super difficile en photographie parce que tout est concret. Et ça peut être l'univers abstrait de quelqu'un qui fait de la littérature. Comment on fait pour photographier Jean-Marc Lovet avec son univers peut-être un peu étrange, hein. Et j'ai trouvé une magnifique image avec un lac à l'arrière-plan qui donne une image à l'envers de sapins qui sont cachés très loin derrière. Donc c'est une image complètement réaliste, hein. On voit des sapins, mais ils sont à l'envers. Donc, ça donne une information sur l'artiste. Et à pratiquement chacune de ces 117 images, puisqu'en fin de compte, il y a eu des couples de photographes, des couples d'artistes, vous voyez, dans ce livre. Donc, au lieu de 104, il y en a eu 117. Et ça a été un miracle permanent.
Robert Hoffer, en 2006, d'après ce que j'ai lu, vous vous êtes mis à la photo numérique. On va rappeler que, bien sûr, avec l'argentique, on devait mettre à chaque fois un film à l'intérieur. Est-ce que vous faites encore de l'argentique?
Alors, plus du tout. Ça a été pour moi un vrai bonheur d'arrêter l'argentique, parce que le numérique était bon, peut-être moins polluant. Ouais, je ne sais pas, il faut bien sûr construire des capteurs numériques, des appareils numériques, etc. Mais il y avait une sorte d'immédiateté, il n'y avait plus toute cette chimie. Il y a peut-être une lenteur qu'on a peut-être perdue, mais qu'on a retrouvée après avec tous les instruments qu'il y a sur... Avec l'image numérique, avec Photoshop, on peut passer des heures et des heures, peut-être même plus que dans un laboratoire photo, parce que dans un laboratoire, après 2 ou 3 heures ou 4 heures, en étant debout, on commence à être fatigué, tandis qu'à l'ordinateur, j'allais dire, c'est presque infini comme possibilité. Donc voilà, une sorte de perfectionnisme ou de l'image argentique. Oui, à un certain moment, c'était un artisanat. Il fallait avoir des vraies compétences. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un retour, hein, des gens plus jeunes commencent à se remettre parce que peut-être que l'image numérique est devenue trop parfaite et l'image argentique a une sorte d'imperfection qui a un certain charme. Alors, je ne peux pas analyser ça à fond, mais il y a une sorte de revirement, une sorte de revival aujourd'hui.
Robert Hoffer, on ose dire que vous êtes en âge d'être à la retraite, mais vous connaissant, je suis persuadé que la passion de la photo est toujours aussi forte. Quelle est votre actualité? Qu'est-ce que vous faites en ce moment?
Oui, c'est vrai que j'ai arrêté il y a exactement 2 ans ma carrière professionnelle et je me suis dit, ah, je vais certainement me trouver un hobby tout à fait passionnant. Et puis, je me suis dit que le vrai hobby le plus passionnant qui existait, c'était la photographie. Donc, je continue, je dirais même presque pratiquement plus qu'avant. Alors, je photographie tous les jours avec mon téléphone portable, je photographie avec mon drone, je photographie le paysage, je photographie des fleurs, je photographie avec une caméra obscura qui a été construite par ma compagne. Je dirais d'une certaine manière, j'arrête pas. Et puis, c'est pas compliqué, c'est un peu comme je respire, c'est pas une obligation. Et puis, voilà, j'ai des expositions en vue en 2024, en 2025, certainement en 2027 aussi. Donc, il y a de quoi faire encore et de remplir mes journées.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la photo? C'est plus la prise de vue ou le travail après? C'est le tout?
C'est en fait la surprise permanente. On sort de chez soi, on met ses baskets, c'est déjà le début. En venant ici, simplement en traversant sur les passages cloutés, les structures au sol sont juste magnifiques. Il y a 1 million de personnes qui sont passées là-dessus sans peut-être les voir ou en les voyant. Et puis, voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Tout est un livre ouvert.
Je dois dire qu'ayant fait moi-même de la photo, j'ai trouvé extraordinaire effectivement le fait que beaucoup de détails, beaucoup d'angles de vue qu'on n'aurait même pas regardé vraiment nous apparaissent parce qu'on fait de la photo et on les voit d'un autre œil, on peut dire.
Oui, c'est comme une d'être un regardeur. N'importe quel photographe ou artiste ou personne même qui fait ça en amateur comprend ça. Hein. Il y a la lumière n'est jamais la même. Moi, je photographie depuis bientôt 12 ans où j'habite le haut de cri depuis ma salle de bain. Le haut de cri depuis ma salle de bain, je pense que j'ai jamais vu 2 fois pareil. J'ai à peu près 10 000 photos que j'ai fait maintenant en 12 ans.
De la même montagne.
De la même montagne. Oui, absolument. Et du même point de vue. Donc, avec la même optique. Je fais toujours 3, avec un zoom, je fais entre le 80 et le 200 mm, je fais 3 photos. Mais il n'y a rien qui ressemble à rien. Un quart d'heure après, ça peut être différent. S'il y a un nuage qui passe, évidemment, quand le ciel est bleu, c'est juste l'ombre du soleil qui fait que la montagne change. Mais voyez, c'est simple.
Très bien. Il me reste à vous remercier et à vous souhaiter encore de nombreuses et passionnantes photos.
Avec plaisir. Merci beaucoup à vous.
C'est ainsi que se termine cette interview. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à bientôt.